Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme tous les soirs pour On refait le match sur RTL, première radio de France. On va parler bien sûr football jusqu'à 21h. Retour sur la défaite des Bleus hier, l'équipe de France, la première de Laurent Blanc. Défaite en Norvège, 2-1. Et on va se projeter bien sûr vers les deux matchs de qualification pour l'Euro 2012. En septembre, le 3 face à la Biélorussie, le 7 en Bosnie. Quelle équipe pour Laurent Blanc et pour l'équipe de France pour ces deux matchs qualificatifs? Conservera-t-on des jeunes qui ont été lancés hier? Rappellera-t-on l'essentiel des grévistes de Nice-Na? On va en parler ce soir avec tous nos spécialistes. Également Jean-Claude Plessis de la bande APACO sera avec nous. En deuxième partie d'émission, Ben Arfa a-t-il raison d'aller au clash? Doit-il partir en ce moment même? Ça commence à chauffer du côté de la Canebière. Nous serons avec Jean-Louis Pacul, notre envoyé spécial, notre correspondant là-bas à Marseille. Ben Arfa qui est venu à l'entraînement aujourd'hui mais qui est reparti aussi sec. Personne ne veut plus communiquer, ni Jean-Claude Dacier, ni Didier Deschamps, même si le président pourrait s'exprimer dans la soirée. On vous tient bien sûr au courant. En tout cas, ça brûle du côté de l'Olympique de Marseille. Et puis, en fin d'émission, la cellule Mercato, la cellule de recrutement, ça se confirme pour Anthony Modeste à Bordeaux et toutes les autres infos en France et à l'étranger.
Avec Parion Sport, vivez le foot plus intensément en suivant les matchs de votre choix.
Pour toute information sur les matchs à venir, voici votre rendez-vous pronostic dans On refait le match. FTJ.
Tous les jours, on ouvre notre page pronostic avec la deuxième journée de Ligue 1. Ça va venir très vite samedi. On est à J-2. Carl Olive est avec nous comme toute la semaine. Salut Carl.
Bonsoir Monsieur Silvestro.
Alors nous avons parlé hier de Marseille, dont on attend la réaction après la défaite en ouverture. Et bien aujourd'hui, on va parler du tombeur de l'OM, justement, le promu, le champion de Ligue 2. Caen qui se coltine un autre gros morceau, un autre favori du championnat, mais cette fois dans son stade à Michel Dornano. Ce sera Lyon pour les Canets pour confirmer cette belle victoire à Marseille.
Alors Franck Dumas l'a dit, il tient son match référence, ça tombe bien, c'était le premier contre l'Olympique de Marseille. Arrive l'équipe de Lyon avec un contentieux qui date de 2005, on s'en souvient. Jean-Michel Aulas avait fait venir un huissier pour constater les dégâts de la pelouse à Dornano. Ça lui avait pas souri, hein. Victoire de Caen à l'époque 1-0. Et depuis, on traîne un petit peu cette rancœur. Autant dire que les Normands se remontaient comme des coucous demain soir.
Ouais, ils sont en pleine forme, hein, forcément, après cette victoire engrangée du côté du stade Vélodrome. Dans ce stade, Michel Dornano, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un joli petit stade de foot, 20 000 personnes, carré, beaucoup d'ambiance. C'est un très très joli stade. Il avait été construit l'année où Caen était descendu, figurez-vous, en Ligue 2. Parfois, ça ne sourit pas. Côté lyonnais, on a eu un premier match un petit peu compliqué face à l'AS Monaco. Ce match nul 0-0, les Monégasques auraient même pu l'emporter. Il ne faudrait pas prendre trop de retard et surtout ne pas avoir trop de doutes en tête côté lyonnais. Hein.
D'autant que la saison dernière, Lyon avait démarré également avec un partage des points. C'était sur le terrain du Mans, mais avait enchaîné 4 victoires consécutives. Alors il y a une espèce de Lisandro-dépendance, on le dit. Également une espèce de Loris-dépendance, on l'a vu le week-end dernier. Super Hugo Loris. Ce qui fait que, Eric, on va les donner. Les cotes sont plus ou moins partagées. Hein. 3,60 pour une victoire de Caen, 3,15 pour un partage des points et 1,85 pour une victoire lyonnaise.
Oui, quand même avantage lyonnais au niveau de la cote. On fait confiance, pas encore à Caen. On dit, allez, c'est peut-être l'exploit qu'ils ont fait à Marseille. On va voir si ça mérite confirmation ou pas. Au niveau de la tendance des parieurs,
c'est 43% pour une victoire normande et 59%. C'est pas si énorme que ça,
c'est
pour
assez,
Lyon.
C'est assez équilibré, finalement, cette équipe de Caen. Elle a surpris agréablement. On rappelle que le match est programmé dimanche à 17h. Hein, bien sûr, ce sera les matchs décalés du dimanche après-midi. L'autre rencontre à laquelle on s'intéresse ce soir, Carl, avec vous, c'est également l'autre rencontre qui est décalé au dimanche 17h, et c'est le derby entre Bordeaux et Toulouse. Bordeaux battu lors de la première journée à Montpellier, tandis que Toulouse a pris les 3 points à domicile face à Brest. Pour Bordeaux, il faut déjà revenir à hauteur des Toulousains.
Oui, alors là pour le coup, les parieurs ont largement affiché une tendance à l'avantage des Bordelais, 64% au moment où nous parlons. Eric, des cotes là encore à l'avantage de Bordeaux, 1,55 pour une victoire bordelaise, 3,60 pour un partage des points et 4,70 pour une équipe toulousaine. Marquez, Toulouse n'a rien à perdre. Depuis 5 ans, ils perdent tout le temps à Chaban-Delmas.
Ouais, le derby est toujours en faveur de Bordeaux. Est-ce que, ouais, il y a un petit ascendant psychologique là, c'est évident. Les Toulousains vont peut-être vouloir enfin faire tourner. On sait que les Stéphanois, par exemple, avec l'OL, n'y arrivent pas depuis encore bien plus d'années. Pour les Toulousains, ça fait 5 ans, vous avez dit. Hein.
5 ans qu'ils ont toujours perdu. Alors, il y a eu un 0-0, mais qui date de 17 ans maintenant. Je dis 0-0 parce qu'à l'époque, il y avait un joueur qui évoluait, c'était l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, c'est Jean Tigana.
Ah, Jean Tigana de retour en Ligue 1, lui qui a coaché Lyon et qui a coaché Monaco. Il a commencé par une défaite du côté de Montpellier. Connaissant son sens de la gagne et sa haine de la défaite, il voudra bien sûr prendre 3 points pour la première à Chaban-Delmas. Caen, Lyon et Bordeaux-Toulouse, les deux rencontres qu'on a évoquées ce soir. On vous donne avec Karl rendez-vous demain entre 20h et 21h. Le On joue le match spécial, deuxième journée de Ligue 1. On évoquera toutes les rencontres avec toutes les cotes, toutes les tendances. Et une première en France, Karl, on en parlera demain. Ce sont les pelouses synthétiques. Les deux premières rencontres dans l'Hexagone. Ce sera à Nancy, Nancy-Rennes, et à Lorient pour Lorient-Nice. Ça va changer la donne, hein, Karl.
À mon avis, on va pas jouer en vissé demain soir.
Ouais, on va en parler demain soir dans On joue le match. Rendez-vous demain avec Karl Olive pour tous les rendez-vous pronostics. Nous, maintenant, on parle équipe de France.
Et maintenant, à vous de jouer.
Rendez-vous avec les meilleurs experts pronostics
vendredi sur RTL dès 20h.
Vivez vos matchs plus intensément avec Parions Sport.
FDJ, venez refaire le match sur RTL.
Appelez le 3210.
Benjamin Lapeyre, Toulon. Sioné Loaki.
Clermont-Ferrand.
Pierre-Gilles Lacafia.
Stade Toulousain.
Bravo, un café ?
Un café ? Alors là, je sais pas.
Non, tu veux un café ?
Ah, d'accord, pardon. Oui, merci.
Toute l'équipe de sport de Canal+ se prépare pour la reprise du Top 14. Demain, à 21h, retrouvez le choc de la première journée Perpignan-Clermont-Ferrand en direct et en exclusivité. Alors n'attendez plus, en ce moment, les chaînes Canal+ sont à seulement 20€ par mois pendant 3 mois. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement à Canal+ 3 ou 4 étoiles. Appelez le 3910, 23 centimes la minute.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RTL.
On refait le match.
On refait le match.
Éric Silvestro jusqu'à 21h sur RTL.
Et jusqu'à 20h30, nous parlons équipe de France. Retour sur cette défaite en Norvège hier du côté d'Oslo, 2-1, malgré le but et l'ouverture du score d'Atem Ben Arfa. Laurent Blanc, comme Gérard Rouillet, Michel Platini a donc débuté sa carrière de sélectionneur de l'équipe de France par une défaite. Venez nous rejoindre sur le 32-10 pour partager vos commentaires et surtout vous projeter avec nous sur les matchs de qualification pour l'Euro 2012 début septembre. France-Biélorussie le 3 et Bosnie-France le 7. Jean-Louis Tour, qui était à Oslo et qui est rentré Dardard à Paris, est avec nous. Salut Jean-Louis.
Salut Eric, salut à tous.
Ah, Eric, je croyais qu'il allait me dire Monsieur Silvestro.
Je dis,
vous avez tenté. Oh, bah oui, c'est comme ça. Bah certains disent les prénoms, d'autres disent les noms. Cyprien Sini, que vous connaissez tous, bien sûr, désormais. Salut Cyprien.
Bonsoir Eric, salut à tous.
Et je ne vous présente pas non plus Jean-Claude Plessis, notre cher président. Bonsoir président.
Bonsoir à vous.
Tout va bien?
Un petit peu, pas de quelques soucis de santé, mais c'est l'âge que voulez-vous.
Prenez soin de vous.
Je fais que ça.
C'est bien, il faut s'occuper de soi. Président, vous n'étiez pas avec nous hier soir, mais votre sentiment, tiens, pour commencer sur cette défaite de l'équipe de France, comme tout le monde, mi-figue, mi-raisin, il y a eu du bon, du moins bon?
Bah, c'est mitigé. La première mi-temps, j'étais confiant. J'ai trouvé que c'était bien, ça bougeait. Et au moment où on fait rentrer les joueurs que j'attendais, c'était moins bon. Mais ça ne veut pas dire pour ça que ces joueurs ne sont pas bons. Ça ne veut pas dire pour ça que cette équipe de France, il y avait quand même eu des promesses. Je peux revenir sur Benzema, Ben Arfa, Nasri, Ménès qui m'ont bien plu.
Vous attendiez Ménès, je suis sûr. Hein. C'était votre petit protégé à Sochaux. Hein.
Bah, bien sûr que j'attendais Ménès. Et j'ai pas été déçu. Il a été Ménès. Et bon, quand il sera discipliné et qu'il sera bien intégré dans cette équipe, il sera excessivement à sa place. Non, ce que j'ai regretté, c'est les fautes défensives, parce qu'on peut dire tout ce que l'on veut. Quand on fait des fautes, comme on a vu hier soir, ben on peut pas gagner les matchs. Hein. Bon, c'est tout. C'est dur de marquer un but. Hein.
Alors, petite séance de rattrapage avec Jean-Louis Tour sur ce qui s'est passé hier en Norvège. Vous avez commenté le match, on le rappelle, sur RTL avec Nicolas Georgerot. Et c'est vrai qu'il y a eu du bon, du moins bon, plutôt collectif en première, plutôt individuel en seconde.
C'est la défaite encourageante. C'est le concept qu'ont développé tous les joueurs, ainsi que Laurent Blanc à l'issue du match, en zone mixte, devant les micros. Il y a eu du bon, il y a eu de bonnes choses au niveau du jeu. La philosophie de Laurent Blanc qui a été imprimée sur le terrain avec seulement 2 entraînements avant le match. Donc, satisfaction au niveau du jeu, c'est indéniable, même s'il ne faut pas occulter cette absence de résultats. Mais vraiment, le jeu pratiqué, ça a donné le sourire à tous les joueurs de l'équipe de France. Il faut dire que Laurent Blanc avait choisi un exemple plutôt haut placé dans la hiérarchie européenne. C'est Samir Nasri, le milieu de terrain, qui nous l'a raconté.
Il a fait référence un petit peu au Barça et pour les avoir joués, c'est clair qu'ils explosent derrière avec les deux centraux qui sont très très écartés, les deux latéraux qui jouent très haut et avec toujours la sentinelle au milieu qui vient récupérer la balle, qui joue dans les intervalles pour les milieux de terrain. Donc voilà, ça fait énormément plaisir de jouer comme ça, de toucher pas mal de ballons, d'avoir des joueurs en mouvement autour de soi. Franchement, c'est un réel plaisir.
Samir Nasri qui a pris du plaisir et qui a fait partie de ceux qu'on a vus. Alors justement, la perspective maintenant, ce sont ces deux matchs de qualification pour l'Euro 2012. Là, ça ne comptera plus pour du beurre. La Biélorussie, le premier rendez-vous, ce sera le 3 septembre. Et puis la Bosnie, le 7. Alors, quelle équipe, Jean-Louis? On va essayer de se poser la question ce soir avec nos invités, avec le 32-10, avec les messages des blogueurs et des SMSeurs également.
Alors, avant de vous égrener mon équipe que l'on peut imaginer.
Votre équipe, parce qu'on voit Jean-Louis Tour a fait son équipe.
Attendez, oui, quand même, avec
c'est
mon
la
ressenti.
On va savoir, Raymond Domenech, on a fait pendant.
Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est que les 23 de Nysna peuvent officiellement revenir dans ce groupe France, mais à ces 23, il faut retirer Thierry Henry, retraite internationale, il faut retirer Johan Gourcuff, qui sera suspendu pour les deux prochains matchs en septembre face à la Bosnie et face à la Biélorussie. Ce sera la Biélorussie d'abord.
Et puis peut-être les 5 qui vont peut-être...
J'allais y venir.
Je sais pas.
Et Galas, vous le retirez pas?
Mais alors, attendez.
Ah bah, Galas, on le retire aussi.
Ah, mais il s'est pas retiré, lui, pour l'instant.
Bah, il s'est pas retiré, mais il a pas de club, et vu les performances qu'il a
eu, Laurent Blanc le retira d'office.
Mais bien sûr. Non, mais ça, ce sont les choix sportifs. Mais officiellement, je vous dis ceux qui sont sélectionnables. Donc, il y a également le cas des 5 points d'interrogation. Toulalan, Abidal, Evra, Ribéry, et un dernier, Nicolas Nelka, qui devront passer mardi prochain devant la commission de discipline de la Fédé avec peut-être de plus amples sanctions. Bref, ce qui pourrait nous donner au mois de septembre, Loris dans les buts. Je pense que Stéphane Ruffier
n'a pas marqué énormément de points.
Voilà, pas de là à piquer la place du Goloris. Côté droit, je pense que Bakary Sagna reprendra sa place par rapport à Rod Fanny, qui a été intéressant offensivement, mais
faites le 11 titulaire, hein. Bah votre 11 titulaire,
complètement. Attendez, en défense centrale,
carrément, même pas le groupe.
En défense centrale, Mexès associé à Toulalan ou Rami.
Je suis d'accord.
Voilà. Attendez Jean-Claude, vous allez réagir après. On le laisse finir son 11 à Jean-Louis Tour.
Donc, ça lui a pris l'après-midi. Alors.
Bah, attendez,
il a eu beaucoup de boulot dans l'avion.
J'ai eu 2h30 dans l'avion pour réfléchir à tout ça. Mexès associé donc à Toulalan, vu qu'il est en défense centrale, ou Rami si Toulalan est de nouveau suspendu. À gauche, moi j'ai mis Abidal ou Clichy.
Abidal
il sera peut-être resuspendu. Mais à gauche, c'est pas mal hein, par rapport à la défense centrale.
Okay.
On garde le losange mis en place hier avec en sentinelle, comme on dit, devant la défense. Soit la Sana Diarra s'il reprend du rythme avec le Real et qu'il fait deux bonnes semaines de préparation, ou Yann Mvila qui a été très satisfaisant à ce poste-là. À droite, Abou Diaby qui va revenir et qui n'a pas grand-chose à se reprocher sur le terrain en Afrique du Sud. Florent Malouda, même chose sur le côté gauche. Samir Nasri en meneur de jeu puisque Gourcuff est suspendu. Et devant, Waro, car Laurent Blanc mise énormément sur lui, associé soit Karim Benzema s'il a repris le rythme, même chose que pour Diarra avec le Real Madrid, soit Atem Ben Arfa qui finalement a été quand même l'élément déclencheur. Bah pourquoi pas,
ouais,
en reculer par rapport à Waro.
Non mais Waro il recule déjà beaucoup pour décrocher au jeu, alors il n'y aura plus personne devant si vous mettez Ben Arfa. J'y crois pas, Ben Arfa devant. Président Plessis, cette compo vous plaît?
Moi je mettrais Sissoko à gauche.
D'accord.
Mvila.
Tu as convaincu.
Ouais, ouais, puis je le vois souvent jouer à Lyon. Mvila, indiscutablement, il m'a bluffé, je le connaissais peu.
Oh, très fort, très
il
fort.
Il m'a bluffé, il a joué juste. Hein, c'est un
métronome.
Diaby, bien sûr. Malouda, je suis d'accord. Nasri, oui. Oaro, oui, parce que c'est intéressant. Il apporte des solutions. Et puis je mettrais Benzema, moi aussi, parce que Benzema, c'est dommage de ne pas l'utiliser. Il a un tel talent, il a une telle soif de revanche. Et puis je garderai quand même Ben Arfa pour entrer en jeu, parce que moi, c'est un garçon. Vous allez parler de Marseille tout à l'heure, mais c'est un garçon que j'ai toujours apprécié. Il est quand même capable de sacrés trucs.
Ah, ben ça, c'est un super joueur. On n'a jamais dit le contraire. 20h16 sur RTL, le 32-10, les premiers appels pour participer à ce débat de l'équipe de France. Quelle équipe donc pour les matchs officiels et qualificatifs pour l'Euro 2012 face à la Biélorussie le 3 septembre et la Bosnie le 7. Pascal ouvre le bal des auditeurs sur le 32. Bonsoir, Pascal.
Bonsoir.
Vous êtes c'est de Valenciennes, Pascal.
Oui. Bonsoir Monsieur Plessis et bon
réveil. Bonsoir, merci.
Bonsoir, Pascal. Alors Pascal,
par rapport à l'équipe, oui.
Qui vous gardez, quelle équipe?
Par rapport à l'équipe que je viens d'entendre, mis à part Sissoko, parce que même s'il a emballé Monsieur Plessis, moi il m'a pas emballé du tout. Je préfère Clichy.
D'accord. Et sinon, c'est la même équipe vous faites? Parce que je vois sur ma fiche, Ruffier, vous gardez Ruffier.
Ouais, non, mais Ruffier en troisième gardien.
En troisième gardien, d'accord. Ça, d'accord.
Je le trouve meilleur que Carasso, en fait. Mais bon, d'accord. Ça c'est un avis personnel, je le trouve plus saignant, enfin bon. Au défense central, Rami Mexès, parce que je trouve que, mis à part les automatismes qu'ils n'ont pas encore trouvé, mais ça peut venir très rapidement. Et Rami, je le connais parce qu'il joue à Lille. Ça me paraît costaud.
Rami, c'est pas un peu limite au niveau international quand même? Vous émettez pas quelques réserves?
Non, mais il y a de la taille, il y a du physique. S'il joue 2-3 matchs en équipe de France après, voilà, c'est tout. Voilà, c'est vrai que Mexès, ça va, à mon avis, hein, ça, ils vont s'entendre. Quoi.
Président Plessis, moi j'ai l'impression qu'il y a encore un joueur qui va faire les frais de tout ça et qu'on condamne déjà. C'est Sébastien Schillaci qui pourrait jouer à droite à côté de Mexès.
Oh là là, Non, mais ça représente pas l'avenir, président. Expliquez-lui quand même que ce qu'il a dit, ça ne représente pas forcément.
Il a jamais été mauvais en équipe de France.
Attendez, l'avenir, il faut vivre le présent, là.
Ouais, exactement, président. Non, mais ça, c'est les petits jeunes, vous voyez, ils veulent tout chambouler, là.
Non, mais vous savez, je fais mon malin avec vous, hein, parce que je suis en train de faire une équipe, j'oserais pas la faire à Strasbourg, mon entraîneur gueulerait. Hein. Donc je me venge. Non, je pense que faut pas condamner des garçons comme Skilacci, qui est un très 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 bon joueur, on aura besoin de tout le monde. Moi, ce qui est important, c'est de savoir que si Toulalan joue dans l'axe à Lyon, il prend une place automatiquement en équipe de France. Hein.
On refait le match.
Éric Silvestro sur RTL.
Moi, je suis d'accord avec vous, hein, messieurs, mais Toulalan en défense centrale, c'est quand même tout neuf. Il aura quoi? Allez, 2-3 matchs avec Lyon. Le premier n'a pas été exceptionnel, loin de là, face à Monaco. Voilà, Mexès, il ne le connaît pas non plus du tout. Je sais pas,
je trouve Toulalan Mexès, ça
a de la gueule.
Ça fait deux joueurs qui savent relancer ces techniques.
Ouais, mais un seul, ça suffit. Hein.
Ouais, mais justement, il manque peut-être le tueur avec Mexès.
Et ça sera plus Rami dans ces cas-là, ou Mamadou Sakho si on inverse les rôles, ou peut-être Skilacci qui, quand même, dans les duels aériens.
Galas
est très bon.
Non.
Galas, ça va être compliqué pour lui, hein, Jean-Claude Plessis.
Oui, surtout dans les duels hors du terrain. Non, je crois qu'on ne va pas se plaindre d'avoir foison de joueurs et d'avoir du choix. Et je pense que Laurent, le tour d'horizon qu'il vient de faire, de lui apporter quand même certaines satisfactions, parce qu'il y a quand même des joueurs qui ont, sans exploser, ont montré qu'ils étaient... Il y avait de la technique, il y avait du jeu, il y avait du plaisir. Et je crois que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre et on pourra, à un moment donné, oublier ce qui s'est passé en Afrique du Sud et faire un melting pot de tous ces joueurs et on aura une belle équipe de France.
D'ailleurs, président, vous citez Mamadou Sakho, le Parisien. Laurent Blanc mise énormément sur lui. Il l'a enlevé des espoirs qui ont perdu pourtant hier pour le faire jouer. Il avait dans la tête de le faire jouer, de le faire rentrer, Mamadou Sakho. Après les circonstances de jeu, l'équipe de France qui se retrouve menée ne pouvait pas le faire faire un remplacement en défense. Mais voilà, il compte vraiment sur le Parisien.
C'est Eric Mombers qui doit être content vu que les espoirs ont perdu contre la Belgique, vous l'avez dit, qui ont maintenant pratiquement plus aucune chance de se qualifier pour l'Euro 2011. Ça va devenir très compliqué.
Mais je le trouve très charitable, parce qu'on oublie quand même qu'on perd sur des fautes défensives inexcusables.
Non, mais on perd sur notamment la Saint-Adjara, qui est catastrophique sur le deuxième but.
Non, mais à ce niveau-là, c'est pas pardonnable, les gars. On gagnait le match.
Justement, on avait ce débat avant l'émission, président Plessis. Et Jean-Louis Tour, vous allez voir, est très remonté là-dessus. La Saint-Adjara se trouve complètement hier. Bon, ok, c'est pas bien, ça doit pas arriver à ce niveau-là. Il est à court de rythme, le Real n'a pas repris. Ok. Est-ce qu'il peut le mettre seul devant la défense face à la Biélorussie le 3 septembre, sachant que le rythme, il l'aura certainement un peu plus, mais pas encore de façon exceptionnelle. Et s'il repasse à côté de son match, on va dire, mais attendez, mais c'est forcé, il est passé déjà à côté.
Il aura Diarra.
Mais il peut pas le mettre.
Il aura Alou Diarra, sa sentinelle, son homme de confiance à Bordeaux, son capitaine. Lui, c'est sûr qu'il va pas se priver de le prendre pour les deux matchs de qualification.
Vous êtes sûr qu'il fera pas confiance à MV, là, qu'il l'a quand même bluffé, qu'il a bluffé pas mal de monde.
La sentinelle sera Alou Diarra.
Et puis Alou Diarra est très présent dans le jeu aérien, est très présent dans les duels défensifs. Si on a cette paire très joueuse, Mexès Toulalan, par exemple, derrière lui, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui met le pied comme Alou Diarra à la récupération. Et je pense même que vu que Laurent Blanc fera tourner le brassard de capitaine, je me demande si Alou Diarra il peut pas porter le brassard lors des prochains matchs.
Ok, on va remercier Pascal sur le 32-10. Merci d'avoir été avec nous, Pascal. À très bientôt sur l'antenne d'RTL.
Bonne soirée à tout le monde.
Allez, on marque une courte pause et Romuald nous rejoindra juste après la pub.
RTL 20h-21h.
On refait le match
sur RTL. Vous rêvez que vos nuits soient encore plus belles que vos jours? Arrêtez de rêver. But joue les prolongations. Vous avez maintenant jusqu'au 15 août pour acheter votre literie à prix réduit, comme le matelas Epeda Bomba en 140. Soutien ferme, 504 sorts en sachet, au prix exceptionnel de 319€ au lieu de 399€. Cet été, profitez du confort des grandes marques et du réconfort des prix But. Jusqu'à moins 30% sur une sélection de literies signalées en magasin. Moins 30%! Rendez-vous vite chez But.
But, on s'y retrouve tous. On refait le match.
Éric Silvestro sur RTL.
20h22 sur RTL, première radio de France. On parle équipe de France après la défaite hier des Bleus en Norvège. 2-1. Nous nous projetons vers les matchs qualificatifs de début septembre face à la Biélorussie le 3 et face à la Bosnie le 7 pour savoir quelle équipe Laurent Blanc alignera. Le fameux mix, le melting pot, comme disait Jean-Claude Plessis, entre les grévistes de Naïsna, les anciens et puis les jeunes qu'on a vus en Norvège. Tiens, sur le blog et sur le SMS, avant d'accueillir Romuald sur le 32-10, est-ce que ça réagit, Cyprien?
Oui, les blogueurs et les SMS qui n'hésitent pas à nous proposer leur équipe également, comme Mermoz qui nous écrit mon 11 pour les qualifications: Loris, Sagna, Rami, Mexès, Tremolinas, et on l'a oublié,
c'est vrai,
Alou Diarra, lui il a pas oublié, Diaby, Nasri, Malouda, Ouaro et Benzema devant.
On n'est pas loin.
On n'est pas si loin.
On est pas mal. Et puis alors il y a Carlos Bianchi, parce qu'on a des blogueurs célèbres, qui nous dit je pense que Laurent Blanc devrait garder la même ossature et ne rappeler que Loris et Toulalan et éventuellement s'ils reviennent à leur meilleur niveau, Gourcuff et Ribéry.
Et Malouda, Gourcuff sera Bianchi suspendu. Oublié Malouda, je suis sûr.
Ouais, Carlos Bianchi a oublié Malouda.
Et Gourcuff sera suspendu, on le rappelle, donc il ne pourra pas jouer ses matchs.
Et puis juste il y a un SMS qui nous dit Bisounours qui nous dit Blanc rappelle qui il veut du moment qu'il n'appelle pas Raymond Domenech.
Il pense Bisounours. Pas trop de risques de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Romuald, on l'avait dit qu'on l'accueillerait, donc on l'accueille. Oh, bonsoir Romuald.
Bonsoir tout le monde.
De Villemomble.
Alors, moi, je voulais poser une petite question. Mais qu'avez-vous après William Gallas? C'est-à-dire que
sur
un point de vue strictement footballistique...
Oui. Ah, il était bon.
Il est bon.
Ah bon, arrêtez.
Après, comme ça. Je tout un tas de choses. Non, soyez objectif.
Oh, on est objectif. On a bien vu la Coupe du Monde. Même sur le foot, et rien que le foot, il a quand même pas été extraordinaire.
Romuald, je vais me poser en médiateur entre les deux. Il a pas... était catastrophique, mais il n'a jamais été, pour moi, le patron de la défense qu'il est censé être.
Bon, alors on va dire les choses autrement. Est-ce que hier soir, vous avez vu un patron dans le match de football qu'ils ont réalisé l'équipe de France? Il n'y avait rien.
Non, je vous l'accorde.
Je vais vous dire juste une petite chose. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai entendu dire tout à l'heure, non, peut-être pas Ben Arfa. Néanmoins, vous avez dit clairement, nous aurions gagné si la Sanadjara n'avait pas commis cette fausse technique.
Gagné, en tout cas pas perdu, il y avait un parcours.
Là, je ne suis pas d'accord avec Romuald sur le manque de patron.
Laissez le finir.
Bon, ce qui me paraît évident, c'est qu'on est en position à un moment donné favorable uniquement grâce à un exploit personnel de Ben Arfa. Point à la ligne.
Ouais, mais Romuald, en première mi-temps, il y avait quand même du jeu collectif intéressant.
Mais non, mais arrêtons avec. Il y avait du jeu, oui, ils sont disciplinés, oui, ils ont compris qu'il fallait répondre convenablement aux médias, aux journalistes, oui, ils ont la trouille, oui, il n'y a pas de patron, oui, tout le monde fait dans son pantalon, et vous savez comment ça va finir? Il n'y aura rien dans les chaussettes, parce qu'il y a une telle pression pour le... Mexès, c'est un type qui aurait dû être dans l'équipe de France depuis belle lurette.
D'accord.
Depuis belle lurette. On se demande comment il trouve encore la motivation pour revenir. C'est-à-dire qu'il a une histoire un peu près similaire à celle d'Anelka. Il sait qu'il a le niveau, il aurait dû y être, il n'y est pas.
Mais sans caprice.
Donc là, vous avez maintenant des gars qui sont robotisés, totalement robotisés, qui ont la trouille, et vous croyez qu'ils vont pouvoir lâcher un bon football avec ça? Non, moi je vous dis clairement les choses. Il y a du talent, c'est clair, mais ce sont des seconds couteaux. L'équipe de Domenech, elle n'était pas mauvaise, selon moi. Après, vous pourrez discuter entre vous et vous pourrez polémiquer sur le sujet. Moi, je dis qu'elle n'était pas mauvaise, cette équipe-là, mais qu'il y avait effectivement un capitaine à bord du bateau, donc Domenech, qui a bousillé tout le monde. Là, ce que vous allez voir prochainement, c'est que Laurent Blanc, il va rappeler quasiment tout le monde. Il y en a que 4 ou 5 qui ont fait partie du match d'hier soir.
Mais on ne dit pas autre chose, hein.
Qui vont être présents.
On n'a pas dit autre chose, hein, Romuald.
Oui, mais sauf que il y aura une différence notable. C'est que ces garçons qui vont revenir, ils vont revenir la peur au ventre. Ils vont revenir en n'étant pas des hommes sur le terrain, ils vont revenir en étant des enfants comme Lilian Thuram l'a si bien signifié. Et quand vous revenez comme ça, forcément, il n'y a pas de résultat. Parce que le football, il faut être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps, il faut être bien à tout point de vue, il ne faut pas arriver en stress, il ne faut pas avoir peur de répondre.
Là, ça, c'est le boulot de Laurent Blanc, de les mettre en confiance.
Mais Romuald, je termine là-dessus. Vous parlez de Gallas, moi, je sais très bien ce qui pose un problème aux médias, aux journalistes, et notamment aux animateurs d'RTL, c'est qu'il aurait, je le dis au conditionnel parce que j'y étais pas, il aurait effectivement eu un comportement pas très sympathique auprès d'un journaliste. Ok, très bien, mais si
on
maintenant.
Non, mais on s'en fiche de ça
complètement.
Romuald, je suis obligé de vous arrêter, on s'en fiche.
Je dire des trucs pareils, on est attaqué directement par Romuald. Alors moi, Gallas, j'étais pas à la Coupe du Monde. Donc Gallas, il peut faire ce qu'il veut à la Coupe du Monde. Il peut faire ce qu'il veut aux journalistes. J'en ai rien à foutre. J'étais pas. En revanche, ce que je comprends pas, c'est que je juge un joueur sur ses performances sur le terrain. Et ses performances sur le terrain, elles sont pas dignes de William Gallas.
Et
le président Plessis va être d'accord avec moi. Un joueur,
quand il a sont pas moindres par rapport au reste de l'équipe.
Mais attendez, un joueur comme Gallas, on attend plus de lui. C'est le capitaine. Il a un certain âge. Il doit donner l'exemple. Il prétend un poste de capitaine. On lui donne pas. Il a pas répondu au niveau. C'est tout.
Dans les médias, que Henry était le joueur le plus fort à l'entraînement. Il n'a pas joué.
Mais ça a
quel rapport avec Gallas?
Mais vous pouvez pas me dire que William Gallas avait le niveau qu'il devait avoir. Il devait tirer la défense vers le haut.
Avait le niveau.
Mais peut-être.
Vous avez quelqu'un il y avait un capitaine à bord qui a sabordé le moral, de toutes ses troupes. Personne n'avait le niveau.
Ouais, mais...
à tel point que vous avez Abidal qui dit moi je ne joue pas, je refuse. Mentalement, il n'était plus présent. Si vous prenez pas en compte l'aspect psychologique, je suis désolé, vous n'allez pas comprendre.
Romuald, et après on va définitivement tourner la page parce qu'il y en a marre de parler de la Coupe du Monde. On a envie de se projeter vers l'avant. Vous me parlez.
Les performances de l'équipe de France.
Romuald, il faut aussi laisser écouter les gens parce que nous on veut bien vous laisser parler. Il n'y a pas de souci. L'antenne d'RTL est ouverte à tous les auditeurs, mais il faut aussi écouter.
Excusez-moi, j'étais un peu passionné.
Vous me parlez, mais nous aussi on l'est. Il n'y a pas de souci. mais on l'est tous. Mais bon. Vous me parlez d'Abidal. Abidal, il veut pas jouer. Abidal, il fait le kéké à la télé en disant que fera Raymond Domenech et vous, que vous, qu'est-ce que vous ferez après la finale de la Coupe du Monde. Et il dit à tout le monde, avant la compétition, on posera avec la Coupe pour la photo. Alors, voilà. Hein, ça marche dans les deux sens.
Là où Romuald a quand même raison sur un point. Oui, oui, c'est pas faux. Et je vais vous donner raison sur un autre point, Romuald. Je vais vous donner un point, un favorable Romuald. Alors laissez-moi vous le dire quand même. C'est que là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, il y a un espèce d'angélisme autour du match hier. On a l'impression que le jeu est extraordinaire.
Mais non, on n'a jamais dit ça.
Lisez les commentaires un petit peu partout. C'est ça qui se dit depuis.
Il y a l'indulgence des jeunes et de Laurent Blanc. Ça, d'accord, elle est peut-être exagérée.
Et c'est pour ça qu'avec cette indulgence que vont avoir, je pense, les médias pour Laurent Blanc, pour tous les signes qu'il a envoyés, l'ouverture aux médias, au public, il y a une indulgence qui s'est créée. Et bien grâce à cette indulgence, même les joueurs de Naïsna qui vont revenir n'auront pas la trouille et seront dans un climat beaucoup plus serein que ce qu'ils ont connu auparavant.
Romuald, restez passionné surtout. Surtout restez passionné. Hein, Jean-Claude ?
Non, mais.
Faut pas perdre la foi.
Il a raison. Faut pas perdre la foi. Mais les joueurs, quand ils vont revenir, c'est des joueurs de haut niveau, c'est des sportifs de haut niveau. Vous pensez bien qu'ils vont mettre tout ça derrière. Ils vont vouloir, au contraire, faire la démonstration que c'était pas de leur faute. Que le mal était ailleurs. Et on sait tous très bien, on en a suffisamment parlé sur l'antenne de RTL de ce mal qui rangeait l'équipe de France bien avant. Après, on a fermé notre clapet parce qu'on s'est dit, et si ça faisait comme avec Jacquet en 80. Donc on a tous, en 98, on a tous commencé à se calmer et on est devenu supporters de l'équipe de France. Et ce qui est arrivé ne nous a pas étonnés. Ça a été peut-être plus loin qu'on ne le pensait. Aujourd'hui, la place allait à une nouvelle équipe de France. On a vu hier qu'il y avait encore du choix. Moi, j'ai regretté peut-être la non-sélection de Pedretti, mais pour des raisons sentimentales, et l'ayant vu beaucoup jouer l'an dernier, je pense que sur le jeu long, il aurait pu apporter un peu plus que ceux qu'on a vu aujourd'hui.
Ouais, mais quand on voit un Mvila, c'est réussi quand même.
Oui, c'est vrai. Mais je suis obligé de le reconnaître. Voilà. Mais moi, quand je vois une villa, quand je vois ces garçons qui arrivent, l'équipe de France, c'est pas une chasse gardée. Il y a un turnover, il y a des nouveaux qui arrivent, des anciens qui partent. Chilachi, je vous rejoins, il mérite aussi sa chance parce qu'il a été blessé. Non, mais.
Et président, sur un joueur que vous connaissez bien, sur Jérémy Ménez, vous ne l'avez pas trouvé plus discipliné qu'auparavant que ce que vous aviez vu ? Moi, je l'ai vu se replacer défensivement.
Jérémy, c'est le talent et un jour, il sera titulaire de cette équipe de France.
Ouais, mais un jour.
Il a 23 ans, la belle histoire, il n'a pas perdu beaucoup. Temps, hein.
C'est vrai.
Il joue à la Roma, il fait des compétitions européennes. Bah. Il était pro à 16 ans, c'est pas si mal son parcours.
Mais Cesse, il devient titulaire à 28 ans, donc tous ces joueurs-là peuvent se dire qu'ils ont le temps.
Hein. Oui, mais attendez, s'ils nous qualifient pour le championnat d'Europe et puis ils ont une Coupe du Monde dans 4 ans, ils auront 30 ans, 32 ans, eh bien ça sera bien.
Éric Silvestro, on refait le match sur RTL.
En tout cas, on n'a peut-être pas encore retrouvé une équipe de France qui gagne, mais on a retrouvé les débats enflammés autour de l'équipe de France. Tout le monde s'était un petit peu éteint dans la fin de l'ère Domenech. Là, on sent bien que la passion ressurgit et c'est pas pour nous déplaire. On va clôturer ce débat avant d'ouvrir celui de l'OM, et Dieu sait qu'il est enflammé celui-là aussi, autour du cas Hatem Ben Arfa notamment, avec Philippe sur l'équipe de France. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir à toute équipe, vous m'entendez là ?
Oui, on entend très bien. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir à tous. Bon, alors moi je passe derrière Romuald, ça va être un peu compliqué quand même. Juste de conclure, c'est vrai que pour Laurent Blanc, il faut qu'il y ait un compromis à faire entre l'exigence, quand même l'obligation de gagner, quoi. Hein. C'est quand même, il est là pour ça, et puis de refabriquer une équipe. Alors je pense que ce qu'on a vu hier, c'est une équipe quand même avec 22 nouveaux joueurs, entre guillemets, dans l'équipe de France, et puis les 22 de la Coupe du Monde mis sur le côté. Je pense que là, il va falloir qu'ils remixent entre les deux, quoi, entre et quelques joueurs de la Coupe du Monde, plus certains qu'on a vus sur le terrain hier soir.
Alors quel mix vous faites, Philippe ? Vous prenez qui, vous, alors ? Vous faites un mix, ça, apparemment tout le monde est d'accord là-dessus, vous le faites comment, vous, le mix ?
Alors le mix, ça c'est pas évident. Je pense que derrière, en fait, par rapport à la défense, je pense que Lloris, Sagna, Evra, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut quand même qu'ils reprennent des anciens derrière, quoi.
Et vous gardez la charnière Mexès Rami, alors, si je vous écoute.
Alors, le plus compliqué, c'est ça, en fait. Hein, c'est ce que j'entendais Jean-Michel Larquet ce matin sur RMC.
Chez nos confrères, mais oui, bien sûr.
Chez nos confrères. Mais effectivement, je crois que le chantier de la défense centrale, d'ailleurs, c'était un chantier dont on parlait avec Domenech pendant quelques années. C'est vrai que c'est un vrai chantier, mais c'est un vrai point d'interrogation, ça c'est sûr. Hein. Est-ce qu'il peut devenir le nouveau patron à 28 ans de la défense centrale? Ça, je ne sais pas. Mais je crois que le souci, il est là. Après, au milieu et devant, il y a un tel... En fait, le problème de Laurent Blanc, au milieu et devant, c'est qu'il y a un tel choix, il y a tellement de talent, tellement de possibilités, que là, à mon avis, il va se débrouiller. Hein.
Ah ben c'est son boulot, hein, Jean-Claude Plessis. Hein. Il faut choisir maintenant.
Oui, je m'inquiète pas pour ça.
Hein. Oh, je pense que Laurent Blanc a déjà ses petits choix en tête.
Tant qu'on a le choix, mais d'ailleurs cette opération, la punition des 23 et le fait de faire jouer 23 joueurs neutres qui n'auraient pas eu leur chance, est-ce qu'on aurait vu Envila s'il n'y avait pas eu cette opération ? Rien que pour ça, c'est positif.
Hein. Ouais, c'est vrai que c'est positif et c'est une décision forte également, comme d'autres, hein, qu'a déjà pris Laurent Blanc pour marquer un petit peu également de son empreinte cette nouvelle équipe de France. Merci à Philippe d'avoir été avec nous, comme tous les autres auditeurs, sur le 32-10. On reparlera des Bleus très bientôt sur l'antenne d'RTL, bien sûr, et notamment juste avant ces matchs qualificatifs pour l'Euro 2012. Il faudra les gagner, ceux-là, et notamment le premier face à la Biélorussie le 3 septembre, et puis celui en Bosnie le 7 septembre. Une courte pause, l'expresso de Cyprien Sini, et on ouvre la page Olympique de Marseille. Dieu sait qu'elle est sacrément remplie. Jean-Claude Plessis, vous bougez pas, vous restez avec nous ? On a besoin de l'avis d'un président en ces temps du côté de l'Olympique de Marseille.
RTL, on refait le match.
Cette semaine, dans France Dimanche, Bruno Kremer, la disparition tragique de Maigret. Le 7 août dernier, après un long combat contre la maladie, l'interprète du plus charismatique des commissaires nous a quittés, laissant derrière lui plus d'une centaine de films. Retrouvez dans France Dimanche un dossier exclusif et poignant sur tous les moments forts de sa vie d'homme et d'acteur. France Dimanche, 1,20€ seulement.
Eh ben moi, mon père, il m'a promis de m'inscrire au judo à la rentrée. Mais la rentrée, c'est loin.
Salut Thomas, c'est Frédéric Jossinet, vice-championne olympique. Cet été, avec la Fédération Française de Judo, tu vas découvrir l'aventure judo avec le Judo Tour Littoral.
Ah bon? On peut faire du judo sur la plage?
Oui, bien sûr. Le Judo Tour Littoral, ce sont des initiations gratuites ouvertes à tous sur 24 plages de France jusqu'au 21 août.
Et il y aura des champions en vrai?
Oui, ils t'attendront au village judo pour des démonstrations, des dédicaces et plein de cadeaux à gagner. Alors rendez-vous sur les plages cet été. Le judo, c'est pour toute la famille avec RTL.
RTL, on refait le match. Expresso.
Toute l'actualité du sport ce soir avec Cyprien Sini.
Et la nouvelle star de la natation française a encore frappé après l'or sur le 100 mètres d'eau. Camille Lacour réalise le doublé sur 50 mètres. Le nageur du Cercle des nageurs de Marseille réalise un temps canon, 24 secondes et 7 centièmes, à 3 centièmes seulement du record du monde. Camille Lacour, comme dans un rêve.
Ouais, il y a tout qui se passe bien dans le meilleur des mondes, là, je me régale. Il fallait vraiment que je me concentre sur le départ, qui est un peu mon point faible sur cette distance, donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai réussi avec une bonne coulée, et derrière je me mets en place très rapidement pour nager vite. J'essaie d'accélérer tout le long du 50 et tout se passe bien, donc un véritable plaisir. Je crois que je suis à maturité maintenant, et il m'a fallu quelques années pour monter à ce niveau, et là il fallait juste que j'arrive à m'exprimer, c'est ce que j'arrive à faire, c'est juste génial.
Il a joué, Camille Lacour ?
Le reste au Cercle des Nageurs de Marseille.
Ah, ça fait plaisir ça.
Ah, c'est sûr que ça va mieux au Cercle des Nageurs de Marseille qu'à l'Olympique de Marseille. La cour qui brille et toute la natation française qui s'illustre encore aujourd'hui, car en plus de la cour, Ophélie Cyrielle-Étienne a pris l'argent sur 800 mètres, tout comme le relais féminin sur le 4x200. Enfin, Hugues Dubosc a pris le bronze sur le 200 mètres. La tuile pour le Brésilien de Loël Ederson, blessé hier avec le Brésil face aux États-Unis. Le milieu de terrain de 24 ans souffre d'une rupture totale des muscles ischio-jambiers de la cuisse gauche. Il sera opéré lundi à Lyon. La durée de son indisponibilité n'est pas encore connue. Enfin, comme un expresso sans tennis ne serait pas un bon expresso, Marion Bartoli s'offre la numéro 2 mondiale, Caroline Wozniacki, 6-4, 6-1 en 8e de finale du tournoi de Cincinnati. À Toronto, 10e victoire consécutive pour le revenant David Nalbandian, qui a battu Robin Söderling, 4-6, 6-4, 6-1.
Merci Cyprien Sini, c'était extrêmement complet.
RTL.
C'est l'été sur RTL. On refait le match sur RTL.
Avec Eric Silvestro.
20h36 à l'écoute d'RTL, première radio de France. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h comme tous les soirs pour décortiquer l'actualité football. Et comme souvent pendant cet été, nous allons prendre la direction de Marseille où les affaires se compliquent pour les dirigeants. Athem Ben Arfa a priori choisi d'aller au clash. A-t-il raison ? Doit-il partir ? Rejoignez-nous sur le 3210 pour nous donner votre avis, sur le SMS également au 64-900 et sur le blog dont on refait le match sur rtl.fr. Il s'agit de planter le décor parce que tous les jours il évolue ce décor et pour cela, rien de tel qu'un bon Jean-Louis Pacule. Bonsoir Jean-Louis.
Salut à tous.
Oh, salut Jean-Louis. Voilà,
vous êtes robotisé Jean-Louis Pacule dans votre voix téléphonique.
Non, je suis pas au téléphone.
Vous êtes sur vos lignes. Alors on explique à nos auditeurs, Jean-Louis Pacule est sur sa petite machine en direct et apparemment un petit souci technique et du coup vous avez l'impression que c'est Robocop qui vous parle, mais non, c'est bien Jean-Louis Pacule.
Vous pensez que c'est Athem Ben Arfa qui a piraté la ligne de Jean-Louis Pacule ?
Peut-être Jean-Claude Dassier ou Didier Deschamps pour éviter qu'il ne donne trop d'informations. On essaye d'empêcher Jean-Louis Pacule de parler, ça ne marchera pas, je vous le dis tout de suite. Président Plessis, vous qui êtes président, ben justement, la position de Jean-Claude Dassier et de Didier Deschamps. Elle est très compliquée avec ce Hatem Ben Arfa qui veut partir, mais on lui avait dit de partir. Donc c'est normal, lui dit moi, vous m'avez dit de partir, maintenant je pars. Mais le problème, c'est que maintenant on veut le garder parce que Mamadou Niang part à sa place.
Ouais, c'est le feuilleton d'été régulièrement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je comprends les dirigeants. Si Didier Deschamps, à un moment donné, veut se séparer d'Hatem, c'est qu'il y a des raisons internes. C'est que, bon. Mais tout le monde est bien d'accord pour dire que c'est un garçon d'abord très sympa, je continue à le dire, et un joueur exceptionnel. Et c'est toute la difficulté. Et moi, je me mets à la place du dirigeant et je me mets à la place d'Hatem. C'est un talent comme ça. Je sais pas si on en trouve sur le marché des transferts. Et...
Oui, mais ils voulaient le laisser partir.
Oui, je sais.
S'ils avaient dit non, tu pars pas, et que le gars va au bras de fer alors qu'il a un contrat, bon, ok. Mais là, ils voulaient le virer, et puis d'un seul coup, ils veulent le récupérer parce qu'ils sentent que ça tourne pas comme ils veulent.
Jean-Louis Pacube va vous le dire, parce que Hatem, c'est Hatem, avec tout ce qu'il y a derrière, avec tout ce que ça comporte. Moi, je pars dans les détails. Mais si Didier Deschamps, qui est quand même un expert et qui est expert en psychologie, qui a quand même su me diriger des gens extrêmement difficiles, a du mal avec Hatem, c'est qu'il y a des raisons. Ses prédécesseurs à Lyon ont eu les mêmes soucis, mais n'empêche qu'Hatem, je le répète, qui est un garçon adorable, est un joueur exceptionnel. Voilà.
Ouais, ça, on est tous d'accord.
C'est la difficulté. Hein.
Moi, je suis d'accord avec le président Plessis. Il est extraordinaire à avoir joué, Hatem Ben Arfa. Maintenant, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quand on est président de club, qu'on est dans cette situation-là. Quels sont les arguments? À quoi peuvent se raccrocher Dacier et Deschamps? Et surtout, comment on fait pour convaincre un joueur quand il veut partir? Ça a déjà dû vous arriver, ça.
Quand t'es à l'OM, t'es pas à Strasbourg. Hein.
bon. Non, mais à Sochaux aussi.
Non, mais d'accord, mais même à Sochaux, je veux dire que quand t'es à l'OM, t'as des arguments à faire valoir. Bon, à partir de là, ce que veut Hatem, c'est d'avoir. Il est jeune, c'est qu'il veut avoir de la compétition, il veut jouer, il veut avoir un rôle important dans le club, il veut savoir quel va être le recrutement parce qu'il a envie de gagner les trophées. C'est ça la demande d'Hatem. Alors je suis pas sûr que là où il veut aller, ça soit mieux. Hein. C'est Newcastle dont on parle.
Newcastle, c'est, bon. Ça, c'est son rêve première ligue.
Mais vous pensez pas qu'il va y avoir d'autres offres d'ici le 31 là, surtout que ça se passe bien pour lui depuis 2-3 matchs, on va dire, qu'il a repris.
Mais comme d'habitude, hein, vous remarquerez tous les ans, ça redémarre. Bon, Newcastle, qu'est-ce qu'il va les foutre là-bas? Newcastle, c'était bien il y a 10 ans. Aujourd'hui,
il vient de remonter.
Ouais, enfin, c'est un port de pêche pas très agréable. Hein.
Et puis il y a quand même sa forme du moment qui doit faire enrager les supporters marseillais qui n'ont pas envie de le voir partir non plus. Hier, il marque avec l'équipe de France et c'est le meilleur en deuxième mi-temps.
Non, attendez, c'est un garçon dont le profil, la façon de jouer, fait lever un stade. Alors vous imaginez à Marseille ce que ça peut représenter.
Non, mais on est tous d'accord là-dessus. Moi, je dis simplement, et pourtant Dieu sait que d'habitude, je suis pas dans le camp des joueurs. Et je dis quand il y a un contrat, il y a un contrat. Mais là, ça fait quand même 2 ans qu'on lui fait comprendre qu'en gros, on compte pas spécialement plus que ça sur lui. Là, tout était acté pour qu'il parte parce qu'on n'imaginait pas une seconde que Niang s'en aille. D'un seul coup, Niang s'en va, ça arrange plus les dirigeants pour des questions financières. Et du coup, on lui dit, bah écoute, t'es gentil, Coco, t'as un contrat, tu restes. Non, mais... c'est un peu une girouette, là.
Ça peut s'arranger, ça. Parce que si j'ai bien vu, les conditions de départ pour Newcastle, elles sont pas absolument mirobolantes. En plus, j'ai cru lire prépayant, ce qui est interdit dans la législation française, parce qu'on ne peut pas faire ça. Mais moi, je pense qu'il y a moyen de le garder. Maintenant, je ne suis pas Dacier, je ne suis pas Deschamps, mais je pense que c'est un bras de fer et ça va s'arranger parce que je vois pas quitter Marseille.
Allez, on a retrouvé Jean-Louis Pacule qui va nous expliquer un peu les dernières ce qui s'est passé cet après-midi, on va dire, à la commanderie avec ce non-entraînement d'Hatem Ben Arfa qui est quand même venu, mais qui est reparti.
Ouais, vous m'aviez perdu volontairement là. Hein. Vous vouliez pas que je m'exprime là-dessus. Hein.
Bah nous, oui, c'est peut-être Jean-Claude Dacier, Didier Deschamps, ce qu'on disait. Ils ont peut-être coupé la ligne.
Écoutez, Jean-Claude Dacier là, sur le parvis de la commanderie il y a quelques minutes, a dit il ne partira pas. La proposition de Newcastle est inexistante.
Alors, il a raison.
Doit-on préciser qu'il avait dit la même chose sur Niang?
Oui, comme le disait très bien le président Plessis, qui sait de quoi il cause. C'est vrai que le prépayant est interdit, c'est vrai que de toute façon la somme du prépayant qui était montée de 800 000 à 1 million d'euros ne satisfait pas les dirigeants de l'OM et qu'aujourd'hui c'est quand même de leur part un peu confortable et un peu gonflé, vous me passerez l'expression triviale, de dire la proposition de Newcastle ne nous convient pas, donc Hatem ne part pas. C'est leur droit, sauf que, comme vous l'avez brillamment rappelé, il y a quelques mois, on a dit à Hatem Ben Arfa et à ses conseils, trouvez-lui un club, Didier Deschamps ne compte plus sur lui. Il a trouvé un club, il veut partir, aujourd'hui il est venu avec son sac, et au moment de s'entraîner, ses agents sont arrivés, l'ont mis dans la voiture et ils sont partis tranquillement à Cassis. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'Atem Ben Arfa ne fera pas machine arrière. On peut considérer ce soir que Atem Ben Arfa ne fait plus partie de l'OM. Il va être sanctionné financièrement, bien évidemment, puisque il n'aura pas de lettre de sortie, en tout cas pas aujourd'hui et pas en l'état, il n'aura pas de lettre de sortie. On va, du côté de l'OM, sans doute attendre une éventuelle autre proposition, puisque vous savez qu'il y avait le Werder Bremen, il y avait Hoffenheim, il y avait Galatasaray, il y avait Benfica. Alors peut-être que des clubs aujourd'hui vont se réveiller, mais Atem Ben Arfa a quitté, enfin c'est pas qu'il a quitté l'entraînement, il ne s'est pas entraîné, il a pris son sac, il est parti, et il y a peu de raisons que ça change. Je vous annonce qu'il ne sera pas à Valenciennes samedi soir, samedi après-midi, et donc c'était effectivement un véritable bras de fer entre Atem Ben Arfa, ses représentants, et l'Olympique de Marseille. Voilà, Ronald est là aujourd'hui, et je pense pas que la situation va changer, et elle se complique. Elle se complique d'autant plus la situation que les nouvelles en provenance de Séville sont pas très bonnes, puisque les dirigeants marseillais étaient prêts à mettre jusqu'à 15 millions d'euros pour s'attacher les services de Luis Fabiano, l'international brésilien, et que visiblement, Antoine Vera et José Anigo reviennent avec une proposition du club au moins à 18 millions d'euros. Or, les Marseillais n'ont pas cet argent-là, sachant qu'ils veulent toujours recruter un milieu de terrain, et que Niang, qui jouera, lui, en revanche, vraisemblablement son jubilé, son dernier match, samedi à Valenciennes, devrait partir tout de suite après à Fenerbahçe. Donc, ouais. On est dans le pastis marseillais.
Oui, mais enfin, moi, je vais te dire, Jean-Louis, le problème, c'est que c'est pas une offre sérieuse qui est arrivée sur le bureau de Marseille. Tout le monde sait que...
Non, mais je suis d'accord.
Les clubs français...
Oui, mais il y a 15 jours, elle convenait aux dirigeants de l'OM.
Écoute, les clubs français ont besoin d'argent. Vous voyez bien la difficulté, vous voyez bien la faiblesse du marché. Aujourd'hui, personne peut recruter s'il n'y a pas un apport frais d'argent ou de l'actionnaire ou de la vente de joueurs. Et la vente de joueurs, vous savez ce que ça donne. Vous ne pouvez pas quand même, quand vous êtes un dirigeant, laisser partir un joueur comme Ben Arfa, qui est quand même un grand joueur, à 700 000 euros de prêt avec des bonus et des trucs comme ça. C'est un joueur qui vaut 10 millions d'euros.
Mais oui, mais ils étaient d'accord il y a 15 jours. Il est là le problème. Il est là le problème, c'est qu'ils étaient d'accord il y a 15 jours. S'il n'y avait pas eu l'offre de Fenerbahçe pour Niang, il serait déjà parti depuis belle lurette et tout le monde aurait été content.
Non, mais il y a 15 jours, pourquoi ça n'a pas été signé il y a 15 jours si tout le monde était d'accord? C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça.
Président Plessis, moi je suis à peu près d'accord avec vous. Moi je suis pour que les joueurs respectent leur contrat. Mais bon, à partir du moment où on dit à Atem Ben Arfa, trouve-toi un club et la porte est ouverte, après, c'est vrai que les conditions ne sont pas celles que souhaite l'Olympique de Marseille. Parce qu'on venait de rappeler qu'il n'y a pas de liquidité, mais que quand même, Margarita Louis-Dreyfus, sur ses fonds propres, a prêté 4 millions d'euros, que Vincent Labrune, le président d'Eric Soccer et président du conseil de surveillance, a prêté 4 millions d'euros, ça fait déjà 8, et que Vincent Labrune, qui avait exigé lors du dernier conseil de surveillance, et ça je sais que vous êtes capable de l'entendre, président, puisque vous avez été président.
Il est toujours.
C'est assis, vous l'êtes toujours, c'est assis sur les 10% de baisse de la masse salariale que le conseil de surveillance avait exigé en fin de saison dernière. Donc du côté de l'actionnaire et du côté du conseil de surveillance et d'Eric Soccer, on a fait tous les efforts nécessaires. 8 millions d'euros de lignes de crédit ouvertes et une baisse de moins de 10% de masse salariale sur laquelle on s'assied cette saison. Donc maintenant, avec 8 millions d'euros plus la vente de Niang, Didier Deschamps, il doit recruter un attaquant de pointe qui, espérons-le, sera Luis Fabiano, mais pour le moment, les nouvelles sont pas très bonnes. Un milieu de terrain, puisque ça, c'est son objectif quasiment principal avec Fabiano, enfin avec un attaquant qui semble ne plus être Alou Diarra, puisqu'il est capitaine et que, visiblement, les négociations sont au point mort, et éventuellement, un joueur côté gauche, si Atem Ben Arfa continue et réussit et gagne son bras de fer. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller.
Non, mais Jean-Louis, mets-toi à la place de l'actionnaire, justement, qui vient de donner de l'argent, Margarita, Labrune, de l'argent. Comment peuvent-ils comprendre qu'on laisse partir Ben Arfa à 700 000 euros C'est ça la difficulté.
Ah non, mais ça, eux, ce qu'ils disent, c'est clair. Nous, on a nommé des dirigeants, on les paye.
Ils font le boulot.
Plutôt bien pour faire le métier. S'ils le font pas, on fera les comptes.
Allez, le pastis marseillais, on va voir ce qu'en pensent les auditeurs également.
Ça va s'arranger, moi je suis sûr. À Marseille, ça s'arrange toujours. Dassier est un bon négociateur, Vera est un bon négociateur. Et puis, il y a aussi le directeur sportif qui est un peu comme moi, qui a une faiblesse quand même très marquée pour Ben Arfa.
Allez, Yannick est avec nous, président, et Jean-Louis Pacul. Yannick sur le 32-10. Bonsoir Yannick.
Bonsoir à tous.
C'est vrai que c'est un sacré pastis, hein, comme nous dit Jean-Louis.
Oui, tout à fait, il a raison. Bonsoir à tous, et moi je suis tout à fait d'accord avec le président Plessis. Je crois que tout le monde reconnaît que Hatem Ben Arfa a un talent énorme. J'ai eu la chance d'être hier soir à Oslo pour justement le voir jouer. Je pense que quelque part, ben voilà, ça fait une très grosse erreur de la part de Didier Deschamps de se séparer de lui, surtout si Nyang part, parce que sur le côté gauche, ben voilà, on a besoin d'Hatem. Je crois qu'il faut qu'on comprenne que plutôt que de partir dans un club comme Newcastle, il reste à Marseille, il joue le titre, il joue la Ligue des Champions, et je crois que c'est le plus important pour lui, c'est de rester à l'OM, parce que ben voilà, quoi, je crois qu'aujourd'hui, c'est des petits clubs, entre guillemets, qui souhaitent l'avoir, et ben je pense qu'il faut qu'il reste à l'OM.
Cyprien,
on parle beaucoup d'argent depuis tout à l'heure, mais il y a un problème qu'on n'a pas évoqué, et qui est pour moi primordial dans le dossier Ben Arfa, c'est le problème humain. C'est-à-dire que depuis que Deschamps est arrivé, il ne fait pas confiance à Hatem Ben Arfa. Quand Hatem Ben Arfa a commencé à un peu mieux jouer et est revenu sous de meilleures dispositions après l'hiver dernier, après la trêve dernière, il a maigri, il a beaucoup joué, il a bien joué, il a été convoqué par Raymond Domenech. Et à partir de ce moment-là, toute la fin de saison, Deschamps ne l'a plus fait jouer. Je pense que la cassure entre Deschamps et Ben Arfa, elle date pas d'hier. Deschamps, il porte pas forcément en estime très haute Ben Arfa. Ben Arfa, il aime pas non plus beaucoup Deschamps. Aujourd'hui, alors que Deschamps lui propose d'aller voir ailleurs depuis 15 jours, et que maintenant Deschamps vienne le chercher, c'est assez cocasse, et je pense que le problème, plus que financier, plus qu'un transfert, il est humain. Je pense que ces deux personnes-là ne peuvent plus travailler
c'est
ensemble.
Ouais.
Jean-Louis Pacul.
Souvenez-vous, lors du transfert d'Hatem Ben Arfa de Lyon à l'Olympique de Marseille. Mmh. Allô, les dirigeants lyonnais ne voulaient pas le laisser partir. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a refusé de s'entraîner, il a dit « s'il faut, j'arrête le football ouais. ». Et aujourd'hui, je le sens, moi, dans cette disposition-là, Hatem. Vous vous êtes moqué de moi, vous m'avez humilié, vous avez voulu que je parte, je ne joue plus dans ce club. Moi, je sens aujourd'hui, Hatem Ben Arfa, dans ces dispositions-là, au prix que ça va coûter. Alors, il y aura des retenues sur salaire, elles sont de 3%, on les connaît, elles sont fixées par la loi, mais... très honnêtement, quand on prend son sac sur le dos, un quart d'heure avant l'entraînement, qu'on part avec ses agents et qu'on annonce que de toute façon on n'ira pas à Valenciennes, je vois mal comment ça peut se résoudre. Alors il y a des instances qui vont statuer et réfléchir là-dessus, mais très honnêtement, au moment où je vous parle, je ne vois pas Hatem Ben Arfa faire machine arrière.
Ouais, je ne pensais pas dire ça un jour, mais presque je le comprends pour une fois, Hatem Ben Arfa, parce que mais oui, on a joué un peu avec lui quand même du côté de l'OM depuis des mois, et maintenant on essaye de rattraper le coup parce que ça tourne mal.
Tous les supporters de l'OM sont derrière lui.
Messieurs, j'ai envie de vous demander, est-ce que Laurent Blanc n'est peut-être pas aussi la clé humaine, justement, qu'évoquait Cyprien Sini pour la suite? On connaît les rapports qu'il a avec Deschamps. Il est désormais sélectionneur des Bleus. Est-ce que si Laurent Blanc intervient comme médiateur, président Plessis, et qu'il dit à Hatem Ben Arfa, écoute, c'est mieux que tu restes à l'OM, tu vas jouer, tu seras en France, il y a l'équipe de France, moi je te fais confiance, est-ce que ça peut jouer?
Ouais, toutes les bonnes volontés sont bonnes, mais je crois que l'Olympique de Marseille, avec Deschamps, Anigo et Vera, sont tout à fait capables, et puis Dacier bien sûr, sont tout à fait capables. Il y a quelque chose de louche là-dessous, parce que si jamais Hatem veut partir, c'est pas pour un projet sportif, faut pas se foutre du monde, la Ligue des Champions et le championnat de la Manche du côté des Newcastle. Il y a quand même un... Je connais bien ce club. Hein. Bon, je veux dire qu'il y a un problème financier sans doute, mais le problème financier, il n'est pas sérieux par rapport à... Et tout dirigeant vous dira que faire partir Ben Arfa pour un prêt de 700 000 euros... c'est une catastrophe.
C'est dérisoire, ouais.
C'est dérisoire, attendez.
Non, mais prêter Ben Arfa, ça.
2 millions d'euros, hein.
Non, pardon?
C'était monté à 1,2 million, mais c'est toujours faible.
Non, mais l'affaire, c'était de prêter Ben Arfa à Newcastle, comme ça, il prenait en charge l'intégralité du salaire du joueur, donc ça allégeait la masse salariale de l'OM, ce qui permettait de faire venir un joueur et de le payer plus cher.
Ils utilisaient les sous de Margarita pour acheter l'attaquant.
Voilà, et
ils mettaient Nyang à gauche.
Et le truc, c'est que Ben Arfa à Newcastle, il aurait pas gagné plus, puisqu'il aurait eu le même salaire qu'à Marseille, mais pris en charge par Newcastle.
Ah, mais c'est l'OM, encore une fois, qui voulait qu'il parte.
Après, on peut imaginer sinon aussi que Deschamps, parce que certes, il faut convaincre Ben Arfa de rester à Marseille, mais il faut convaincre aussi Deschamps d'utiliser Ben Arfa comme un titulaire indiscutable et de lui faire confiance. Et ça aussi, c'est pas gagné. Oui, donc Laurent Blanc pourrait jouer ce rôle-là.
Ça, vous savez bien qu'aucun entraîneur ne peut garantir à un joueur une place de titulaire.
Ça, je suis d'accord.
Ça ne peut pas se faire. Je n'ai jamais vu un seul contrat de joueur, et pourtant j'en ai vu, et le président Plessis en a vu davantage que moi, où on garantit une place de titulaire. Après, ça c'est du off, c'est entre l'entraîneur, le directeur sportif et éventuellement le joueur, en disant « t'inquiète pas, là tu seras titulaire, tu vas jouer tous les matchs ». Il y a quelques contrats avec des étrangers où pour des questions de bonus, on fixe un minima de matchs. Si tu joues 30 matchs dans la saison, tu attends, bon. Mais ça, je suis même plus sûr que ce soit à l'ordre du jour. Mais il n'y a aucun entraîneur qui peut dire à un joueur
non, c'est pas... titulaire. Puis c'est démotivant, je veux dire, c'est pas ça l'objectif. Non, mais je pense que Ben Arfa, le match qu'il a fait en équipe de France, peut l'inciter à rester en France. Voilà.
Ouais, ou ça peut inciter des plus grosses écuries européennes peut-être à venir taper à la porte. Et peut-être que tout le monde y trouverait son compte s'il y avait une offre transfert à 8, 10 millions.
Et ça permet à l'OM de pouvoir réinvestir par ailleurs. Parce que si Ben Arfa brille à Newcastle, honnêtement, ça fera pas beaucoup de publicité dans les journaux.
Hein. Allez, Cyril nous rejoint également sur le 32-10 et moi, ce qui a écrit sur sa fiche à Cyril, je trouve que c'est un assez bon résumé. C'est que tout simplement, l'OM gère mal ses transferts. Bonsoir Cyril.
Non, on peut pas dire ça.
Bonsoir.
Tout ça se fait quand même à la va-vite, mon cher président Plessis, à dernière minute.
Mais parce que vous savez pas à quoi sont soumis les dirigeants de clubs, et particulièrement dans les clubs qui jouent l'Europe, où c'est très difficile. C'est difficile parce qu'on n'est pas dans le coup. On n'est pas dans le coup pour faire venir les grands joueurs. C'est très difficile, très difficile, très difficile.
Cyril. Votre avis.
Je suis parti d'accord avec vous, président. Mais alors déjà, déjà au niveau tarif, je pense que malgré tout, je pense que le compte y est pas. Déjà, ça c'est mon premier point de vue. Puis deuxième point de vue, président, je suis désolé. On a déjà des joueurs nous en France qui partent parce que un club est arrivé cinquième ou sixième et joue pas la Ligue des Champions, donc ils partent à l'étranger, style Angleterre ou Italie ou Allemagne. Là, on a un joueur qui est dans un club français, qui vient d'être champion de France et qui va jouer avec des champions et ils partent quand même. Alors là, il y a vraiment un sérieux, sérieux problème parce que si on n'arrive même plus à garder maintenant les joueurs qui vont jouer avec des champions, si c'est pour finir dixième du championnat français, je ne sais pas s'ils resteront plus. Là, il y a une sérieuse question quand même à se poser parce que qu'est-ce qu'il va aller faire à Newcastle?
Ouais, mais Cyril, il y a une vraie différence, je vous coupe, entre Ben Arfa et Nyang, par exemple, parce qu'on se dit pourquoi il va aller à Fenerbahçe alors qu'ils jouent, ils sont même pas qualifiés en Ligue des Champions. L'OM n'a rien envie à Fenerbahçe.
Mais tout à fait.
Mais Nyang, il va pour l'argent. Il l'a dit. Voilà, c'est le double du salaire, c'est clair. Pour Ben Arfa, c'est un peu différent. S'il veut partir, c'est parce qu'on l'a poussé dehors quand même.
Et il veut du temps de jeu. Faut pas oublier qu'il était remplacé en puissance alors que Newcastle lui promet un poste de numéro 10. Alors après c'est off et c'est une discussion.
Qu'il aille dans un club où il va jouer la Ligue des Champions ou alors éventuellement la Ligue Europa ou qui va jouer quelque chose. Mais je veux dire, c'est une pré-retraite. Il part en pré-retraite ou quoi là? S'il va
pas vraiment. Pour le coup, il part ni pour l'argent ni pour.
L'auditeur a raison. La vraie question qu'il faut se poser, pourquoi est-ce qu'un grand club européen jouant régulièrement Ligue des Champions ne fait pas une offre sérieuse à Marseille? Parce que c'est quand même un grand joueur. Donc il y a une vraie question. Est-ce que sa réputation le précède? Qu'est-ce qui se passe?
Moi, je pense qu'elle va arriver l'offre.
Après le match hier, oui, c'est sûr qu'il a le vent favorable là. Mais je veux dire, si on n'arrive plus à si les 3-4 premiers clubs français avec tout ce qu'on a perdu comme joueur exceptionnel, que ce soit à Marseille ou dans d'autres clubs, si on n'arrive plus à garder maintenant les joueurs qui vont jouer la Ligue des Champions, si c'est plus la motivation ça, l'argent, ok.
Ouais, mais c'est paradoxal parce que s'ils accueillent Luis Fabiano, ils accueillent quand même l'avancement de l'équipe du Brésil. Donc vous voyez, c'est paradoxal.
Mais lui, il va jouer une Ligue des Champions.
Donc il vient pas. Il la joue aussi à Séville, hein.
Il vient pas non plus pour aller au Prado.
Il la joue aussi à Séville. Pour finir le dossier.
Ouais, mais juste rapidement quand même. Ne nous étonnons pas que Ben Arfa n'a pas d'offre des cadres européens. Il y a l'éternelle incertitude de l'irrégularité d'Atem Ben Arfa. Là, on est dans une période où il est très bon avec l'OM en match amicaux, avec l'équipe de France. Donc forcément, on se dit il faut qu'il aille dans les plus grands clubs d'Europe. Il y a aussi des périodes de vache maigre où Ben Arfa ne fait rien.
C'est vrai aussi.
Et puis il y a
la voix de la sagesse,
Impressionnant. Pourtant, il est jeune. Hein. Déjà mature, c'est incroyable.
J'ai un an de plus qu'Atem Ben Arfa.
C'est magnifique.
C'est à sa cause et Panini. Hein.
Ouais, sans doute. Il en a collectionné quelques-unes. Merci Jean-Claude, en tout cas, d'avoir été avec nous, Jean-Claude Plessis.
C'est toujours un plaisir. Bonsoir.
Merci à Jean-Louis Pacul du côté de la Canebière de nous avoir amené les dernières infos concernant l'OM. On marque une courte pause et il ne nous restera que 3 petites minutes, mais on vous donnera quand même les autres infos mercato du jour.
RTL 20h-21h.
On refait le match.
On refait le match sur RTL. Vous rêvez que vos nuits soient encore plus belles que vos jours? Arrêtez de rêver. Budge joue les prolongations. Vous avez maintenant jusqu'au 15 août pour acheter votre literie jusqu'à moins 30%. Par exemple, le matelas Simons Punch en 140, 504 ressorts en sachet, au prix exceptionnel de 307€ au lieu de 439€. Cet été, profitez du confort des grandes marques et du réconfort des prix but. Jusqu'à moins 30% sur une sélection de literies signalées en magasin. Moins 30%. Rendez-vous vite chez But.
But, on s'y retrouve tous.
On refait le match.
Éric Silvestro jusqu'à 21h sur RTL.
20h57, il nous reste 2 petites minutes 30. Allez, pour évoquer les autres infos mercato du jour, on commence par Modeste qui va enfin rejoindre Bordeaux.
Oui, Anthony Modeste à Bordeaux, c'est quasiment fait. Il faut qu'il passe la visite médicale demain et qu'il parafe le petit contrat. Montant du transfert, 3 millions d'euros plus 20% sur l'éventuelle plus-value sur la revente de l'international. Espoir, du coup, Nice dans cette affaire avec ses bons rapports avec Bordeaux espère récupérer éventuellement David Bellion en attaque.
Du côté de Monaco, rumeur démentie aujourd'hui par Marc Keller.
Oui, on cherche un milieu gauche à Monaco pour remplacer Néné. A priori, ce ne sera pas Faïd Ben Kalfala. Marc Keller, le directeur sportif, a démenti.
Et Pierre Lavignon continue son marché et prospère, hein, le marché du côté.
Avec un prêt pour Lavignon de Loïc Abenzohar, un joueur lyonnais, très jeune joueur lyonnais de 21 ans, donc qui a participé avec l'équipe de France des moins de 20 ans aux Jeux méditerranéens de Pescara, notamment en 2009.
Allez, avec Jean-Louis Tour, les infos à l'étranger, on commence avec Emmanuel Adebayor.
Et oui, Emmanuel Adebayor qui est très pressenti côté interiste. En tout cas, l'Inter de Milan est très intéressé par l'ancien Messin notamment. C'est Benitez, le nouvel entraîneur de cette équipe de l'Inter, qui est intéressé. Seulement, on a pu joindre l'entourage d'Emmanuel Adebayor cet après-midi. L'objectif d'Adebayor, c'est de réussir à Manchester City. Il pourrait être intéressé par l'Inter, mais il faudrait vraiment une énorme offre pour le faire réfléchir. Pour l'instant, il ne réfléchit pas, il jouera à City. Alors l'OM, c'était beaucoup trop cher de toute façon, donc la rumeur a été tuée dans l'œuf.
Le duel Barça-Real va avoir lieu sur la pelouse pendant la saison en Liga, mais déjà également sur le marché des transferts, ça concerne Ozil.
Oui, Mesut Ozil, la révélation de la Coupe du Monde côté allemand, le meneur de jeu, eh bien, la presse espagnole annonce le transfert comme étant fait. Mesut Ozil sera la sixième recrue du Real Madrid, mais eh bien, rien n'a été confirmé pour l'instant. J'ai eu Alexis Menuge, notre correspondant allemand, qui nous disait que c'était tout de même la piste la plus chaude, celle du Real Madrid, qui a une longueur d'avance sur le Barça. Il y a bien que là qu'ils ont une longueur d'avance sur le Barça cette saison.
Oui, on verra l'année prochaine. Attendez, avec José Mourinho, le Special One, peut-être que ça changera. Merci pour toutes ces petites infos transfert. Le reste demain, bien sûr.